Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Raconte ta parentalité. Ici, on prend le temps de se souvenir, de se raconter, de se reconnaître. Parce qu'être un parent, c'est sans doute le plus dur métier des mondes, et pourtant, c'en est pas un. C'est un devoir, un engagement, un acte d'amour, un apprentissage sans fin. Dans chaque épisode, un parent, un couple ou un jeune vient partager son histoire, ses joies, ses blessures, ses doutes et ses espoirs. Peu importe l'origine, la culture, la religion ou la situation sociale, nous traversons tous les mêmes émotions, les mêmes questionnements. Ce podcast est une respiration, un espace bienveillant où on dépose un peu de soi. Pour mieux comprendre comment on se construit, comment on se transmet, comment on va transmettre et éduquer, alors surtout, installez-vous bien, prenez une grande respiration et bienvenue dans Raconte ta parentalité. Edgar Lassana, on est là pour la partie 2. Comment allez-vous ?
Ça va super.
Ça va, merci.
Alors, sur la première partie, on a beaucoup parlé de l'enfance, de l'éducation, du lien avec nos parents, des personnes qui ont été importantes pour nous. Cette deuxième partie va être vraiment dédiée à vous en tant qu'homme, en tant qu'adulte, en tant que père ou beau-père. Et ma première question, c'est quelles sont respectivement vos situations familiales, Lassana.
Papa de deux enfants, deux garçons, un de 1 an et le plus grand de 7 ans, et marié.
Ado. Alors, je t'appelle ado, ouais. Edgar, enfin, ado. Marié. Moi, je t'appelle ado, mais Edgar, dis-moi.
Marié, et donc... beau-père d'une fille de 19 ans, donc, qui est la fille de ma femme.
D'accord, très bien. Du coup, ce qui va être intéressant là, ça va être de voir comment toi, Lassana, comment tu vas te projeter dans cette vie d'adulte et la réalité aujourd'hui en tant que papa de deux enfants. Et pareil pour toi, Edgar, c'est comment tu t'étais projeté dans ta vie de couple familial et comment ça vient se traduire aujourd'hui en ayant justement une belle fille de 19 ans qui est la fille de ta campagne, mais pour autant... comment tu prends part à cette éducation, est-ce que c'est facile, c'est pas facile, et on va croiser tout cela ensemble. Du coup, Edgar, est-ce que tu peux me dire comment toi, est-ce que déjà plus jeune, tu te projetais dans l'homme, le père ou pas que tu allais devenir, est-ce que tu avais une idée de à quoi t'aspirais, est-ce qu'il y avait une projection?
Alors
c'est une question difficile.
Ouais. Je me projetais pas parce que ça ne s'y prêtait pas par rapport à ma situation. Une fois que j'y ai été confronté, j'avais pas de vision en fait. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'école pour devenir parent, et que ayant conscience du modèle moi de mes parents et qu'ils ont été séparés, donc j'ai pas une image au niveau de mes parents, bien qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je les incrimine pas du tout, loin de là. Parce que c'était pas facile. J'avais pas de...
T'avais pas de projection.
Ouais, j'avais pas de projection. Et même à travers mon frère, mon grand frère qui avait ses deux nièces, auxquelles j'ai assisté aux naissances. J'ai assisté aux naissances de pratiquement tous mes neveux et nièces, en fait. Ça, c'est quelque chose auquel je tenais. En dehors de ça, même quand je vois par rapport à ma sœur, comment tant bien que mal elle a pu élever ses enfants, je je me suis pas retrouvé spécialement. Quoi. Donc, je me suis toujours posé la question, quel type de père serais-je, en fait.
C'est intéressant. Toi, du coup, tes parents, ils se séparent. Est-ce qu'il y a un remariage derrière, ou est-ce que, du coup, tu as deux parents qui vivent chacun de leur côté, ou est-ce qu'ils ont, ils ont refait leur vie
Non, ils ont refait leur vie chacun de leur côté.
Chacun de leur côté.
Ouais, ils ont refait leur vie chacun de leur côté. Ouais.
Lassana, même question hein, pour toi.
Moi, la projection, elle se fait naturellement. Hein. Chez nous, le mariage, c'est la suite logique, entre guillemets. Mais ce n'est pas stipulé, en fait. On ne te le dit pas. C'est juste par rapport à certaines situations. Quand tu es jeune, quand tu fais des bêtises, c'est. Tu verras quand toi aussi tu auras ton foyer. Mmh. Et déjà là, petit à petit, c'est une graine qui rentre dans ta tête en te disant « Ah ouais, en gros, quand je vais être à leur place, c'est ça qui va m'arriver. Mmh. » Bon, vrai ou faux, mais on te l'inculque petit à petit comme ça au quotidien. C'est sur des tâches ménagères, c'est sur une décision qui est prise dans la maison, assez difficile. Tu verras quand tu seras marié, tu verras quand tu auras des enfants. Tu verras quand ça va être comme ça. Mm. Et c'est petit à petit que tu te forges petit à petit une image plus ou moins erronée, on en reparlera, mais qu'en grandissant, tu dis oui, mais parce qu'il y avait des paramètres différents qui font qu'eux, ils disaient ça. Mais ouais, tu te forges petit à petit avec ces termes-là au quotidien.
Et du coup, ce qui va être intéressant aussi dans vos deux profils, avec vos histoires chacun, de par vos parcours, c'est toi, Lassana, du coup, tu vas devenir père, tu vas suivre la grossesse de ta femme, la naissance de tes enfants. Edgar, tu as suivi les grossesses et les naissances de tes neveux et nièces. Aimé, tu vas quand même devenir père par le biais de l'union avec ta femme qui, elle, a son enfant. Et du coup, c'est deux choses différentes parce qu'il y a des... On disait tout à l'heure, il n'y a pas d'école pour être parent. Ouais. C'est un apprentissage de tous les jours. Mais du coup, c'est peut-être pas la même chose quand on voit dès les premiers instants de la vie et que la responsabilité nous incombe de façon immédiate. Et quand on arrive à un instant où l'enfant a déjà un vécu, a déjà des parents et qu'il faut prendre sa place en tant que figure d'autorité et parentale quand même, mais différemment, du coup, ça va être assez intéressant. Comment, du coup, toi, tu vis le moment où ta femme elle te dit on va avoir un enfant, tu vas être père?
Moi je vis bien, je vis très bien, dans le sens où déjà je suis quelqu'un de assez cool, de nature non stressée, enfin je prends les choses comme elles viennent, mais moi je le prends bien. J'étais hyper content, comme on dit, j'étais refait. Je vais être papa, je vais être encore, comme on dit, je vais être un homme, je vais être un garçon, je vais être un père, je vais être le padré que j'ai vu au quotidien, mais ça va être moi maintenant. Ça veut dire que je vais être au même pied d'égalité
que mon père.
Que mon père.
Je peux m'asseoir au village.
Exactement.
Avec mes anciens.
Je m'assois au même endroit. Limite, je prends sa place de temps en temps pour lui dire hey, tu peux dire ce que tu veux, mais je fais la même chose que toi maintenant. Tu vois. Mais j'étais super content et pas de doute. Je me dis juste que. Attention quand même, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans le foyer. Nous, c'est vrai qu'on a un rythme assez soutenu au quotidien. Et là, tu te poses la question de comment on va s'organiser. Mais en soi, non, j'étais super content, très très content.
Pour toi, Edgar, la question, elle est différente. Du coup, quand tu rencontres celle qui deviendra ta femme plus tard, elle a déjà une fille, elle a déjà un enfant. Est-ce que dès le départ, tu prends en compte cette projection dans la relation en te disant « je vais forcément du coup devenir père par procuration » ou est-ce que c'est bien après que tu as le déclic de tu vis d'abord la relation et après tu prends conscience de ce rôle de père, ou est-ce que tu l'as tout de suite en tête?
Moi, je voyais la chose comme ça au début. D'abord la relation et ensuite... comme ma femme était déjà très structurée, elle élève sa fille toute seule, elle-même, elle a reçu une éducation très structurée. Donc, je prends le pli tout de suite. Alors, ça n'a pas été évident tout de suite, hein, parce que Moi, je, quand je la rencontre, je sors d'un long célibat. J'ai aucune responsabilité à ce niveau-là. Donc, l'adaptation, elle ne coule pas de source. Mmh. Après, le fait est que je ne m'impose pas, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où je fais le constat qu'elle a mis quelque chose en place, voilà, moi dès lors ma décision c'est de ne rien faire pour que ce soit chamboulé de manière à troubler la petite. Il faut que la trajectoire elle soit
tu tranches derrière voilà, ce qui a déjà voilà. été dessiné
voilà.
Du coup, quand vous décidez de vous marier, de vivre ensemble et que du coup, cette fonction de beau-père, elle se matérialise réellement, quelle émotion tu as ? Est-ce que tu te dis, en épousant ma femme, je deviens le père, le beau-père de cet enfant ? Qu'est-ce qui te passe par la tête en termes d'émotion ? Est-ce que tu es content ? Est-ce que tu appréhendes ? Ou est-ce que, sans doute et sans questionnement, tu te dis ok.
Ah non, moi à ce moment-là, je me dis ok, parce que au moment où on se marie, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. La petite, je l'ai connue, elle était petite, elle était mineure. Donc, je ne me pose pas plus de questions que ça. Au contraire, moi, je me marie, ça a été quelque chose de fort. Ça a été quelque chose de fort parce que je n'aurais pas. Pas pensé que ça m'arriverait de par mon parcours, de par. Ça a été une sacralisation, carrément. Mmh. Je sacralise mon mariage. Quoi,
mmh. Et du coup, toi, à l'inverse, par exemple, de la Sana, t'épouses directement une famille. Femme et un enfant. Ouais. Là où la Sana va épouser d'abord une femme et ils vont construire une famille. Ouais. Comment ça se passe, entre ta projection, alors le père, et d'ailleurs la question c'est pour tous les deux, mais la façon dont vous avez été éduqués, ce que vous avez vu de vos parents, ces séparations respectives et ces remariages quand il y en a eu, avec ces craintes-là, comment du coup ça se matérialise dans vos foyers ? Ça y est, on y est, on se marie, on s'installe. Quel père ou quel mari d'abord ? Pour toi, quel mari, et pour toi directement, quel beau-père je vais être.
Ha ! Quel mari, c'est...
C'est une vraie question, parce que souvent, on choisit son mari, et on ne choisit pas forcément le père de ses enfants.
Exactement. Et pour moi, la principale des qualités ou bien du point qu'il faut avoir dans ces moments-là, c'est la com. C'est la communication, et c'est ce que nous, on a mis en place dès le départ. Dès le départ, comme ça, il peut y avoir des hauts et des bas. Ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ça veut dire qu'on sait qu'on part, du moins dans notre cas, contrairement à Edgar, on part sur quelque chose de nouveau où aucun des deux ne connaît, en fait. On arrive sur quelque chose qui va nous tomber dessus. Chacun vient avec son expérience du passé, de ses parents, son vécu et tout ça. Mais on est tous les deux novices. Mmh. Donc forcément, si on ne communique pas sur nos différends, entre guillemets, c'est sûr qu'on ne va pas s'entendre sur quelque chose où personne n'est au courant de ce qui va se passer, comment on va le vivre, comment ça va se passer, comment ça va arriver. Et je pense que c'est la clé, en fait. C'est qu'on a mis, franchement, un point sur ça. La communication, on communique sur tout, et même si des fois c'est sur rien ou qui n'ont pas de sens, mais ça nous permet d'anticiper et de s'adapter au cas où un truc qui arriverait et qui nous tomberait dessus comme ça.
Et pour toi, Edgar, du coup, quand vous vous installez, du coup, c'est directement, il y a une communication sur quelle va être la place, le rôle de chacun, de qu'est-ce que ta femme attend de toi en tant que mari et beau-père, ou est-ce que ça va se faire au fil de l'eau et se réajuster au fil des actions, ou est-ce qu'il y a quand même une ligne conductrice, est-ce que... parce que souvent, on fantasme un peu sur les familles recomposées. Est-ce qu'il y a une discussion dès le départ où on dit, écoute, moi, je suis parent, si on s'installe ensemble, voilà comment ça va se passer, etc., au niveau de l'éducation ? Ou est-ce que, du coup, ça se fait au fil de l'eau et on réajuste, ou même des fois, ça laisse place à des incompréhensions, au fil du temps ?
La question ne se pose pas vraiment dans la mesure où... Comme je le disais, hein, y a déjà un ordre établi au niveau de l'éducation de sa fille. Elle a déjà entamé des choses. Elle a déjà moi j'arrive, je m'insère quoi, tout okay. simplement. Parce que ça s'agit pas de troubler au niveau de l'enfant. Il s'agit pas de troubler. Voilà ce que sa mère essaie de lui inculquer, dans la mesure où j'ai bien conscience que, même si c'est qu'un seul enfant, mais elle élève seule quand même. Et je sais les difficultés que ça peut avoir de jouer et en même temps le rôle du père et en même temps le rôle de la mère, ce qui est somme toute pas normal, on est bien d'accord. Donc moi, quand j'arrive... C'est pas que je vais m'imposer, je suis pas son père, je suis pas. Mais maintenant, c'est épauler et au besoin être là.
Ok.
Voilà. Au besoin être là.
Tu l'as bien dit, donc tu vas être celui qui va épauler. Donc elle va donner la ligne directive, faire ses choix éducatifs, et toi tu vas l'épauler et au besoin intervenir ou en tout cas être là si elle te le demande clairement.
Tout à fait.
Comment vous vous définiriez en tant que père ? Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de père parfait, et encore heureux, ça donnerait des enfants imparfaits. Mais aujourd'hui, si on te dit, Lassana, quel papa tu penses être ? Et c'est bien, j'insiste bien sur quel papa tu penses être, parce que la vision de ta femme ne sera pas la même, et celle de tes enfants encore moins. Mais toi, Lassana, comment tu te vois et
parfait.
Comment tu te définirais ?
Parfait.
Non, heureusement que non.
Non, je rigole.
si on était parfait, nos enfants seraient cruellement imparfaits. Hein.
C'est exactement ça. Non, je dirais que je suis cool, mais dur en même temps. Ça veut dire que j'ai le côté de ma mère, parce que je veux montrer aussi, j'extériorise ce que je pense. Question amour dont on parlait sur la première partie à mon fils, ce sont des garçons, donc je n'hésite pas à leur dire ouais, il faut que tu dises papa je t'aime, bonjour, viens me faire un bisou, et je leur fais de même. Des fois ça le fatigue le grand, mais je veux qu'ils comprennent que c'est normal et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et d'un autre côté, j'ai aussi ce côté là du père aussi qui resserre quand même la vis, et c'est là où je parlais de communication tout à l'heure, c'est que on sait que les mamans, elles ont ce côté un peu tendresse qui peut parfois différencier. C'est vrai que je serre un peu la vis avec le grand sur certains points. C'est vrai que je laisse la latitude aussi de s'exprimer, de lui dire un truc bateau. Hein. T'as le droit de pleurer. T'es un garçon, t'es grand, t'es costaud, oui. T'as le droit de pleurer. C'est juste ce que t'en fais derrière que moi, j'ai besoin de savoir. Mais sinon, ouais, je suis cool, mais c'est vrai que je suis un peu dur aussi parfois avec le grand.
Une main de fer dans des gants de velours.
On aurait presque dit un jingle, tellement grave. C'était doux et bien dit. Et toi, du coup, ado, comment tu te définirais en tant que beau-père ? Quel genre de beau-père tu penses être ? Et c'est pareil que pour Lassana, si on demandait à ta femme, elle ne te décrirait pas forcément comme ça, et si on demandait à ta fille, encore moins. Mais comment toi... Voilà, comment toi tu te vois et quel genre de beau-père tu es, Edgar ?
Je me vois soft, vraiment soft. Je suis pas le type de beau-père qui va être sur ses côtes tout le temps, qui va tout le temps lui faire des réflexions, comme j'ai pu le voir dans certaines familles recomposées ou. Il s'en prend à l'enfant parce que c'est pas son enfant, il lui évoque éventuellement
le passé.
Vois, non, je suis pas du tout dans cette atmosphère là. Non, vraiment tranquille. En plus, j'ai pas lieu d'être comme ça parce que elle est superbe. Hein. Elle est superbe. Et je peux le dire, tu la connais, tu vois. Donc, je pense. Être, comme dirait Lassana, cool. Mais alors, c'est pas un cool...
Copain
voilà. De toute façon, c'est... Elle est très réservée. Elle est très réservée. Et si vraiment elle est contrariée ou il y a quelque chose qui va pas, ou c'est... De prime abord, c'est pas à moi qu'elle se confierait. Elle préférait se confier.
Réserve ou pudeur, tu dirais ?
Les deux.
Les deux.
Alors, okay. Les deux. Et ça, c'est son éducation, voilà. Mm. C'est, oui, aussi bien éducation maternelle qu'au niveau de ses grands-parents. Mm. Parce qu'elle a connu ses grands-parents. Et voilà, ses grands-parents, génération d'après-guerre, on montre rien. Tu vois, quand tu disais Lassana, tu dis à ton enfant, oui, n'aie pas honte de pleurer. Mm. Voilà, son grand-père, c'est une génération d'hommes où un homme, ça pleure pas. Tu vois, c'est la génération d'après-guerre, tu montres rien, tu vois. Même quand t'as mal, tu dis rien. Tu vois ce que je veux dire, c'est cette génération-là, tu vois.
Et du coup, on parlait dans la partie 1 de la démonstration de l'amour. Est-ce que du coup, t'arrives à montrer à cet enfant l'amour que tu lui portes ? Est-ce que c'est aisé de justement laisser place à cet amour, à cette tendresse ? Et d'autant plus quand c'est une jeune adulte. Même si tu l'as connu dans l'enfance, mais du coup, c'est des choses qu'on plante dès le départ. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu fais comme sa mère peut le faire avec elle, ou est-ce que tu as l'impression de transmettre la non-démonstration d'amour que toi, tu as pu vivre enfant ?
Ouais, non, je suis pas du tout démonstratif envers elle. Non. C'est même d'une manière générale, nos discussions, elles sont vraiment, vraiment basiques et courtes, quoi. C'est comment tu vas, est-ce que ta journée s'est bien passée. Elle me répond et puis voilà, quoi. Après.
Du coup, ça m'amène à une autre question. Comment elle sait que tu l'aimes ? Est-ce qu'elle sait que tu l'aimes, d'après toi, et comment elle peut savoir que tu l'aimes ?
Ça sera si elle le sait, si tout ça passe à travers sa mère. Comme elles ont vécu longtemps toutes seules, toutes les deux, donc forcément il y a si elle va savoir ce genre de choses, ça va passer par sa mère, en fait.
D'accord, mais toi tu n'as pas en fait développé en tout cas ce systématique, enfin comment on pourrait dire, en tout cas cette démonstration de l'amour et de la tendresse verbale, non, et dans les actes peut-être.
Alors, si ce serait dans les actes, je vois pas comment, hormis le fait d'être présent quand elle me demande de manière personnelle. Voilà, c'est est-ce que ça te dérange pas, ça? Oui, il n'y a pas de souci.
Elle passe par là, en fait, cette démonstration.
Voilà, c'est tout. Mais
un peu comme si on est en attente de l'aval il faut que, dès qu'elle va te demander, du coup, c'est l'occasion de lui démontrer à quel point elle est importante et tu te rends disponible pour elle.
Parce qu'elle est, introvertie. Mm. Et la pudeur est en exergue. Mm. Donc, j'ai une anecdote. Hein, je l'ai amenée, c'est quand c'est hier ou avant-hier, là, je l'ai amenée au médecin. Je ne me rappelle plus c'est quoi, je crois que c'est un gynécologue ou un truc comme ça, devait faire une IRM ou un truc comme ça. Et le fait qu'elle allait être confrontée à des questions intimes, elle est passée par sa mère pour me dire qu'elle préfère que je l'attende, que je ne vienne pas. Quoi. Mmh. Et moi, de toute façon, c'était une évidence pour moi que je n'allais pas entrer avec elle. Mais ce fait-là fait que c'est par pudeur qu'elle fait ça. En fait. Le fait d'être introverti, tout ce qui la concerne,
touche à l'intime.
Voilà, elle va passer par sa mère pour me faire passer le message.
Et du coup, pour toi, alors tu disais, Lassana, toi, tu vas être dans la démonstration, dire à tes garçons que tu les aimes, leur faire des câlins, leur dire qu'ils peuvent pleurer, etc. Du coup, c'est quelque chose que ta femme cultive aussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément une réflexion commune? Chacun fait comme il...
Ah si, c'est pareil. C'est totalement pareil. Et puis, pour rebondir ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a une similitude aussi pareille. C'est que parfois, il y a des situations sur lesquelles le grand, il va avoir plus de facilité à le dire à la mère que de venir me voir directement. Donc ça, je pense que c'est propre à chacun. Mais sinon, dans le quotidien, on est tous les deux de la même manière sur la démonstration, que ce soit verbal ou...
Du coup, tes fils, en tout cas le grand, puisque le petit est encore très petit, mais selon toi, il sait que ses parents l'aiment, il sent cette tendresse et cet amour dans le foyer.
Oui.
Ok, les garçons, la question maintenant que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous le jour où, justement, vous embrassez cette fonction de papa ou de beau-père? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il y a un truc... Tu disais tout à l'heure, là, ça y est, on va être responsable d'une autre personne, il va falloir s'organiser. Qu'est-ce qui change?
La charge dans la tête.
La charge dans la tête?
Ouais. En fait, moi, je m'attendais plus à une fatigue physique du quotidien par rapport à tout ce que j'ai entendu, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Faut aller faire des courses, faut s'occuper des enfants, etc. Mais en fait, c'est pas que ça, en fait. Quand t'arrives sur le terrain, ça va au-delà de ça. C'est parce que, mine de rien, là, dans ta conscience, t'as une personne à charge. Et là, pour moi, ça a tout changé, en fait. C'est que je préférais limite aller travailler 24 heures d'affilée que de penser à ce que l'enfant doit faire, à ce qu'il doit manger. Il doit bien dormir, faut l'emmener à des rendez-vous, etc. C'est une nouvelle organisation et mentalement, ça te bouffe au quotidien, en fait. Et là, il n'y a pas de pause.
Et sans... préoccupé sans cesse.
Ah ouais, mais ça, tu ne le sais pas avant. Parce que pour toi, c'est un enfant qui va arriver, limite, tu dois juste changer des couches, et puis après, il dort, quoi. Peut-être des fois, le biberon, de temps en temps. Si t'es fatigué, tu donnes à madame, tiens. Et puis toi, tu dors tranquille. Mais non, ça s'arrête pas là. C'est que c'est H24 auquel tu dois penser à un être qui est dépendant totalement de toi. Et là, moi, personnellement, ça m'a tué. Pour une petite anecdote, à l'accouchement, tout se passe bien, on est content. Sauf que tu sais pas que tu es fatigué par rapport à tout ce que tu as vécu juste avant. La grossesse, forcément, madame, elle est fatiguée, tu dois faire beaucoup plus, mais ton quotidien ne change pas. Tu es obligé de travailler aussi, tu as des amis, tu as de la famille. Ça reste. Il y a juste quelque chose en plus. L'enfant, il arrive et tout ça, maternité, tout le monde est content. Toi, tu as ton bébé, tu es refait, mais tu es fatigué.
C'est un vrai sujet, ça.
C'est hyper dur. Sauf que moi, fatigué, tu sais pas que t'es fatigué, malheureusement, j'ai failli le faire tomber. Il était sur moi, j'ai failli le faire tomber.
Tu t'endormais, quoi.
Il vient juste d'arriver il y a un jour, le petit. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je suis désolé, je l'ai reposé et j'ai dormi. J'ai dit, j'en avais besoin. Mais ça, on le comprend que sur le tas. Te le dis pas avant qu'il y a cette fatigue-là qui va arriver, qui n'est rien par rapport à tout ce que tu dois faire. Déclaration à la mairie, etc. Ok, mais celle-là, c'est plus psychologique et on n'en parle pas assez.
On n'en parle pas assez.
Du tout.
Du coup, merci de parler de ça. C'est une bonne transition pour toi, Edgar, parce que du coup, toi, quand tu arrives, ta fille est très jeune, elle est encore mineure. Et comment, du coup, ça se passe pour toi? Qu'est-ce qui change pour toi, le jour où tu rentres dans cette famille, et même si l'éducation est posée, le cadre par la maman, tu deviens beau-père. Et ça, c'est concret. Est-ce que c'est comme pour la Sana, il y a cette préoccupation au quotidien? Parce qu'en plus, toi, comme tu dis, tu sors d'un long célibat, tu n'as pas forcément de responsabilité d'enfant à charge. Donc, en vrai, c'était cool. Et là, tu arrives, justement, et tu deviens beau-père, boum, ça te tombe dessus. Comment t'appréhendes ça et qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou pas?
Oui, ça change parce que le côté free, en fait, que je pouvais avoir là, maintenant, je me dis, là, il faut que tu fasses attention à ne pas chambouler chambouler l'ordre établi, en fait. Comme l'a si bien décrit la Sana, c'est pas rien. Et donc, forcément, ça m'oblige à être plus ou moins... à faire attention. Et c'est quelque chose qui... c'est quand même quelque chose pour moi qui... ne fais pas attention en temps normal, quoi. Et c'est pas quelque chose. Faire attention, c'est pas quelque chose qui est une évidence pour moi dans la mesure où j'avais cette vie où il y a que moi, quoi, en fait. Tu vois. Et c'est même pas une question égoïste, mais c'est la situation la situation qui s'y prêtait, tu vois. Et ben là, ouais, ado, attention, parce que chaque chose que tu vas faire. Tu seras l'image masculin.
Tout à l'heure, Lassana parlait d'exemplarité, mais c'est pareil pour toi, quoi.
Oui, je suis pas exemple de ça. La seule chose où j'ai été exempté par rapport à Lassana, c'est tout cet aspect fatigue qu'il a décrit, tu vois. Ça, je l'ai pas, j'ai pas vécu. C'est sa mère qui a vécu tout ça et qui le vit encore aujourd'hui, parce que le fait de savoir les rendez-vous, même si elle a 19 ans, tout ça, mais l'inquiétude des parents, une fois que tu as des enfants, c'est à vie, quoi. Je veux dire, même demain, tu as 80 ans et que tes enfants en ont 70, tu seras toujours inquiet pour eux. On l'a dit, la parentalité, c'est être parent, c'est un devoir. Donc à partir de là, aussi longtemps que tu respireras et qu'ils respireront, ce devoir t'incombera. Donc... ouais, moi, c'était surtout ça, le truc. Parce qu'effectivement, j'ai été épargné par l'aspect fatigue qu'il a décrit. Quoi,
De la grossesse.
Ouais, tout ça.
les garçons, une autre question. Alors, attention, parce que cette question, elle est vraiment, vraiment pas simple. Entre l'homme et le père, lequel a le plus évolué? Entre l'homme et le père, lequel a le plus évolué, finalement? Est-ce que c'est l'homme? Tout à l'heure, on disait être un homme ou un conjoint, un mari, c'est une chose. Être un père, c'est encore autre chose. Et du coup, il y a une évolution à deux échelles. L'homme, avec tout ce que vous avez dans vos perceptions, votre ressenti, et le père. Alors, Lassana. Ou, vas-y, Edgar.
Je dirais l'homme. Parce que le père, tu le deviens. Et comme je disais précédemment, il n'y a pas d'école pour le devenir. Tu te fais une image par rapport à celui que toi tu as eu, pour ceux qui en ont eu. Mais l'homme, à partir du moment où tu es né, tu es déjà quelqu'un et tu te construis au fur et à mesure que tu évolues. Donc, quand je dis tu évolues, c'est que tu grandis. Parce que à 20 ans, tu penses pas comme... à 40 ans, tu penses pas comme à 20 ans, et ainsi de suite. Et en fonction de ton instruction... comment je pourrais te dire, intellectuel, eh ben forcément tu abordes les choses autrement, tu vois les choses autrement. Et donc, c'est l'homme qui évolue.
Ok, ouais.
En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
C'est ta perception à toi. Et
moi,
toi
je suis totalement d'accord avec lui. Pour mon cas, c'est l'homme qui a évolué. Et puis, pour aller dans son sens, c'est qu'en tant que père, moi, j'estime que je suis encore en apprentissage.
Oui, c'est pour ça que dans ma question, je disais bien, le gars a le plus évolué entre l'homme et le père, parce qu'il y a aussi une évolution dans la paternité.
Exactement.
Hein. Entre le moment où on devient père, où on embrasse cette fonction de beau-père, et aujourd'hui, vous avez évolué. Parce que les actes, les actions, la vie quotidienne fait qu'on se réajuste et qu'on essaye de s'améliorer. Donc, ce n'était pas une question facile, mais messieurs, vous y avez pas mal répondu.
Après, c'est une adaptation, parce que y a le contexte de vie qui y joue. Parce que en tant que père, tu fais en fonction du contexte de vie, c'est-à-dire que... la vie elle augmente, ton salaire il augmente pas forcément par rapport aux besoins de tes enfants. Voilà, quand il parlait d'organisation, c'était ça comment on va s'organiser, c'est la vraie question. Et cette question au niveau de la société, elle se pose en
permanence,
en fait, tu vois.
Est-ce que par moment vous avez peur de mal faire ou de ne pas être à la hauteur?
Bien sûr.
Ça, c'est une bonne question. Et puis, je vais prendre une trajectoire un tout petit peu sur le côté. Quand tu dis de ne pas être à la hauteur, j'aimerais juste fixer un point, c'est de dire aux femmes, hein, on est obligé de venir là-dessus un peu, c'est de nous laisser notre espace. Après, je ne donne pas ça par rapport à mon cas, mais c'est souvent, et ça, il faut en parler, c'est que dans mon cas ou même dans le cas d'Edgar, parce que c'est nouveau aussi pour lui, et c'était nouveau pour moi aussi, c'est qu'on ne sait pas. Et pour savoir et pour comprendre certaines choses, il ne faut pas nous brider. Mmh. En tant que père, on va faire des erreurs jusqu'à aujourd'hui, on en fait, on va en faire par rapport à l'évolution et tout ça, mais la parentalité n'est pas donnée qu'à la femme. Tu comprends? C'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime détacher les mots. On dit dans le langage un peu vulgaire, il y a père et il y a la mère. Mais indirectement, quand on dit père, c'est le bâton. Dans le conscient des gens, c'est l'autorité, etc. La mère, c'est la douceur. Mais moi, j'aimerais qu'on mette juste parent, en fait. À partir du moment où tu as des enfants, tu es juste parent. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis père, mais je fais comme leur mère. Je peux leur faire des bisous, je peux leur dire je t'aime, je peux les engueuler quand je veux, je peux leur changer les couches, je peux leur donner le bain, je peux leur faire à manger, je peux les garder, tout comme la mère. Donc, laissez-nous de l'espace aussi pour faire nos erreurs, parce que vous en faites aussi. Mais on peut grandir comme vous et puis ensemble, on peut faire quelque chose de correct en tant que parent. Après, en soi, des erreurs, j'ai peur de quoi? Moi, ma crainte, c'est quand ils tombent malades aujourd'hui. C'est ma hantise. Leur avenir, c'est ce qu'on va construire au quotidien avec eux. C'est comme nous autres, nos parents nous ont envoyé à l'école. Il faut que tu travailles dans le conscient des gens. Il faut que tu deviennes médecin, aviateur et tout ça. Mais on ne sait pas ce que demain leur réserve. Donc, tout ce qu'on peut leur donner aujourd'hui au quotidien, c'est l'éducation, les valeurs qu'on a reçues et tout ça. Et les laisser vivre. Moi, ma hantise aujourd'hui, c'est quand ils tombent malades. Et je me dis, je ne peux rien faire pour eux. Quoi. Tout simplement. Donc, c'est juste ça ma peur. Après, comme je te le disais, moi, je suis quelqu'un de chill. Hein,
Tu es quelqu'un de chill, mais tu nous as tiré dessus quand même. Tu as dit, laissez-nous notre espace pour être père.
Je suis obligé de vous tirer dessus. Il faut nous laisser un peu tranquille. On a le droit vous étouffe aussi. C'est pas qu'on nous étouffe. C'est, encore une fois, tout dépend de l'environnement dans lequel on est. Hein. C'est, quand on regarde les réseaux aujourd'hui, c'est les pères, ils sont comme ci. Les pères, ils sont comme ça. Les mères capables, aujourd'hui c'est l'émission pour les pères capables, mais pourquoi? Quelle est votre référence? Quelle est votre échelle pour dire ça? Aujourd'hui, moi dans mon entourage personnellement, il n'y a que des pères capables, comme on peut le dire. Des pères qui n'ont pas peur de changer de couche, qui assument leurs enfants et surtout qui sont là pour eux, au même titre que les mères. Donc pourquoi aujourd'hui on ne nous laisserait pas la place pour dire nous aussi on a droit de souffrir? Moi aussi, j'ai mal à la tête quand je suis fatigué parce que j'ai géré avec les enfants toute la journée. On a le droit de le dire, mais ce n'est pas une faiblesse. Donc, laissez-nous la place aussi d'être fatigué et de gérer nos enfants. Et après, on vous dira, oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas faire le ménage parce que je vais le faire pour toi, chérie, t'inquiète pas.
On ne vous le dit pas souvent.
C'est ça. Pour rebondir à ce que tu dis, ça, je pense que c'est l'image de l'homme dans la conscience collective.
Totalement.
Tu vois, comme tout à l'heure, je parlais de la génération de nos parents, des grands-parents de ma belle-fille, c'est l'image de l'homme, tu sais, par excellence. L'homme, ça pleure pas, ça dit pas quand ça a mal, c'est l'homme fort, tu vois. Et en fait, c'est une image qui est biaisée de base, tu vois. Parce que, comme tu l'as dit, tout ce que la femme fait avec l'enfant, l'homme peut le faire aussi. La seule chose, et ça, il faut bien le reconnaître, mais de toute façon, ça, c'est la nature et elle fait bien les choses. La seule chose que l'homme ne fait pas, c'est le porter pendant 9 mois et le mettre au monde.
Exact.
Du coup, Edgar, est-ce que toi, tout comme la Sana, par moments, ça t'arrive d'avoir peur de ne pas être à la hauteur ou de mal faire avec ta belle-fille? Et en plus, on en parlait juste précédemment, toi, tu viens pour épauler, accompagner ta femme dans ce qu'elle a déjà mis en place, et tu ne veux pas interférer là-dedans, mais du coup, est-ce que tu as peur, par moment, de mal faire ou de ne pas être à la hauteur?
Je dirais pas... je dirais pas peur, mais... ouais, c'est une
appréhension.
Ouais, voilà, une appréhension. C'est pas au stade de la peur, parce que peur, c'est un grand stade, tu sais. Peur de la mort, peur de la maladie, peur de... Tu vois, non, c'est plus une appréhension, tu sais, voilà, mais après, ouais, sans plus que ça, quoi, parce que de base, on n'est pas, il y a pas de fusion, tu sais, il y a pas de, comment je pourrais te dire ça, c'est un strict minimum quoi.
Ok.
Le minimum syndical, j'ai envie de te dire.
Tout à l'heure, en tout cas dans la première partie, se posait la question de des valeurs qui vous ont été transmises par vos parents. À votre tour, messieurs, de répondre à cette question. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous de transmettre à vos enfants? Pas celles qui vous ont forcément été transmises, celles que vous souhaitez transmettre en tant que père ou beau-père.
Le respect. Parce qu'elle est d'une génération où ils ont tendance à penser qu'ils savent tout. Ils ont tendance à penser qu'ils savent tout. Que quand tu leur dis des choses, oui, je sais. Et mais n'étant pas passé par l'expérience de vie par laquelle on est passé, c'est le fait de lire des choses ou de voir des choses sur les réseaux et le fait d'être confronté à une situation, on est vraiment dans deux choses différentes, quoi. Et donc ouais, ce serait surtout ça ce qu'il faudrait lui inculquer, tu vois,
le respect.
Ouais, le respect, ouais.
Et toi, Lassana?
Pareil, le respect, puisqu'on m'a inculqué l'entraide, hein. L'entraide, aujourd'hui j'ai deux garçons, je les vois comme moi et mon frère jumeau, hein. Du coup c'est l'entraide et le respect mutuel et envers tout le monde.
Tout à l'heure, on parlait justement de cette société qui va vite. On a parlé des générations différentes, on a parlé des parents, de la fratrie, des personnes qui ont été importantes. Comment vis-tu ton rôle d'adulte, d'homme, dans cette société où tout va vite, où tout semble aller mal? Parce qu'on en parlait un peu en off, mais tout va vite. Et en même temps, t'es un homme, mais t'es aussi un père, mais t'es aussi un salarié ou un entrepreneur. Et comment vous appréhendez tout ça?
Chef.
Quand il dit chef, ça veut dire c'est une colle.
Non, mais c'est parce qu'on peut avoir des visions différentes sur cet aspect des choses. Moi, j'ai tendance à dire que aller trop vite, c'est pas bon. Tu vois, la vitesse... C'est l'homme qui a introduit cette valeur d'estimation. Ça peut avoir du bon comme du pas bon. Mais quand tu regardes l'ordre des choses, au niveau de la nature, parce que ça reste la référence pour les êtres que nous sommes, c'est la nature. Et aller trop vite, c'est pas trop bon.
Oui, c'est ça, mais... Pourquoi j'insiste sur comment, en tout cas, vous vivez votre rôle d'adulte? C'est parce que tout à l'heure, on parlait d'exemplarité. On parlait de ce qu'on va essayer de poser comme jalon dans l'éducation, etc. Mais on parle aussi de l'exemplarité, de qui on est et de comment on se conduit. Et du coup, comment vous conduisez en tant qu'adulte dans cette société qui va super vite, où on a l'impression, quand on allume les enfants, quand on écoute les gens, que tout va mal, que c'était mieux avant? Comment on prend cette part pour justement, après, que pour nos enfants, dans l'éducation, ça devienne une évidence puisqu'ils vous voient?
Moi, je pars du principe qu'on est dans un cheminement, même en tant que parent. Donc, moi, j'occulte totalement le côté, entre guillemets, réseau, télé, info, tout ça. Je m'adapte uniquement à mon quotidien, à mon environnement. Ce qui se passe à la maison... comment évoluent mes enfants, si je fais des erreurs ou quoi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la com est primordiale. Donc au quotidien, je fais des erreurs. Le plus important, c'est que derrière, ma femme me dise attention. Là, tu dérives. Là, tu pars dans un mauvais chemin pour les petits. Et puis je reviens. Et vice versa, quoi. Et je pense que c'est ce qui nous permet de rester, pas dans la vitesse, mais sereinement sur un cheminement pour les enfants en termes d'exemplarité. Après... Encore une fois, on ne fait pas tout bien, hein. Mais on leur dit que y a un certain âge pour tout, que ce soit pour eux ou pour nous, hein. Mais faut cadrer tout ça, quoi.
Non, je suis assez d'accord. Et je pense même que dans le contexte actuel, à l'heure d'aujourd'hui, comme tu parlais de vitesse, donc on parle de réseaux sociaux, les formats courts, la consommation rapide. Rien qu'en termes de musique, avant, t'achetais un album, tu le saignais pendant un mois, des deux mois, des trois mois. Aujourd'hui, un album, tu passes vite à autre chose. C'est le streaming, c'est avant, t'allais le chercher en physique. Et par rapport à ça, c'est-à-dire que il y a l'information et il y a la désinformation. Et en termes de proportion, la désinformation est plus importante que l'information. Et donc, ça agit sur... Ça altère au niveau du cerveau. Même pour nous, les adultes, on n'est pas à l'abri de ça. On nous met en garde à l'heure d'aujourd'hui par rapport aux écrans. Il y a même la notification dans nos téléphones, dans nos smartphones, qui nous dit, bah voilà, vous avez passé tant d'heures sur votre écran. Voilà, s'ils ont mis ça en place, je pense que c'est pas pour rien. Et qu'il est important... En fait, ce qu'il faudrait à l'heure d'aujourd'hui par rapport au modèle ambiant, le format court, tu vois, et de leur inculquer le discernement. C'est-à-dire.
Mais est-ce qu'on se l'inculque à nous-mêmes? C'est-à-dire qu'on parle de discernement, mais c'est pour ça que j'ai bien nuancé sur les adultes, les comportements que nous, on a en tant qu'adultes, du coup, avant d'essayer de les inculquer. Bon, ouais, le mot nous... inculquer, il est un peu fort, parce que c'est comme si on forçait.
On est des adultes, et puis on a. On n'est pas d'une génération des réseaux sociaux. Nous, on a vécu la vie avant.
Oui, mais les parents d'aujourd'hui, ils sont connectés comme leurs enfants, voire plus connectés que leurs enfants. Il y a même des parents qui sont influenceurs. Enfin, tu vois. Donc, comment nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, avant de vouloir éduquer et accompagner nos enfants à faire face, justement, et à avoir preuve de discernement, est-ce que nous-mêmes, on fait preuve de discernement, en fait?
Déjà, quand on parle de vitesse et de discernement, tout part de la comparaison.
Ah oui.
On se compare constamment,
en permanence,
tout le temps, sur des faits qui sont souvent même sur lesquels on n'a même pas de vision, en fait. Ça veut dire que tu vois une image là de parents entre guillemets top, du coup tu vas t'arrêter sur ça, tu te dis ah, moi j'ai pas ça, il faut que je fasse pareil. Sauf que comme tu dis, on n'a pas le discernement. Est-ce que tu es en capacité de... Est-ce que tu as les finances? Est-ce que c'est la bonne période pour toi? Clairement.
Tu n'as même pas le contexte.
Exactement, tu n'as pas le contexte. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Et du coup, tu fonces directement pour dire « je veux ce modèle-là ». Forcément, déjà, si tu manques de lucidité, tu fonces dans le mur. Et je pense j'espère que la plupart seront dans ce cas-là, mais de se poser et de se dire « est-ce que j'ai besoin de ça ?» Clairement. Déjà, savoir, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'apporter quelque chose? Parce qu'encore une fois, on parle de parentalité. Parentalité, c'est avoir des gosses ou bien être parent d'eux par le biais de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une obligation? C'est la question qu'il faut se poser.
C'est une vraie question. Ça fait partie du discernement, ça.
Totalement,
aussi.
Exactement.
Et du coup, les garçons, on parlait de ce qui va vite, de ces sociétés qui va vite. Comment vous, personnellement, vous prenez ce petit temps de pause, peut-être pour réfléchir, éventuellement, pour vous souvenir, vous projeter ou encore vous améliorer?
Moi, je prends des pauses.
Tu prends des pauses, comment?
Totalement. Simplement que ce soit moi ou ma femme, ça fait partie, encore une fois, comme je disais, la com. On sait que le train de vie, comme tu dis, il va très vite. Tout le monde travaille, les enfants, ils ont leurs activités, ils ont l'école et tout ça. Mais il faut qu'on ait aussi de notre côté chacun son moment. Moi, il y a des moments, je dis, écoute, là, je suis fatigué, je vais prendre du temps pour moi. Je laisse femme et enfant, je vais aller faire un tour, je vais aller me faire un truc solo. Je vais penser à moi et puis vice versa. Des fois, quand je sens que c'est un peu tendu, je dis écoute, je garde les enfants, on va faire quelque chose, bouge, va faire quelque chose, va faire des sorties avec tes copines ou bien même va faire un truc toute seule. Juste pour souffler et pour repartir du bon pied. Parce que forcément, si tu es H24, la tête dans le guidon, c'est là où on commence à avoir des crashs. Mais s'imposer, parce qu'il faut se l'imposer, des fois, ça veut dire sur ton programme, il faut dire ouais, j'accepte de ne pas faire ça pour prendre du temps pour moi.
Je suis assez d'accord avec ça et ça c'est quelque chose de bien répertorié dans ce que nous sommes, hein. On l'entend souvent, hein, même si vous êtes en couple, c'est important d'avoir Les femmes, elles aiment bien dire ça. Son jardin secret. Donc, ça veut dire bien avoir sûr. Ses moments pour soi.
C'est important.
Voilà, que sortir, faire ses sorties avec tes copines. Mm-hmm. Avoir son côté sociable. C'est parce qu'on a connu beaucoup de gens qui, une fois qu'ils sont en couple, ils s'enferment les deux, là. Et ils font plus rien. Ils oublient les copains, l'autre, ils oublient les copines. Ouais. Et une fois que ça va mal, et ben, ça, c'est là que ça réapparaît. Ah, tu vois, t'es vivant. Voilà. Et en fait, ça, c'est ça a été classifié, parce qu'on fait des classifications, et effectivement, ça a été classifié comme quoi quelque chose qui n'était pas spécialement bon. Pas parce que tu es en couple que tu dois t'oublier.
Ouais.
Voilà. T'es en couple, donc vous avez la construction du couple, c'est une cellule, mais tu es... T'avais une vie sociable avant de te mettre en couple. Cette vie sociable, il faut la conserver parce qu'elle va constituer ton équilibre.
Exactement.
Bon, tout est une histoire de balance et d'équilibre intérieur. Parce que on a des vibrations et elles sont censées être en harmonie. C'est pour ça qu'on souvent dit l'esprit et le corps ne doivent faire qu'un. Pour pouvoir... Et donc, à partir du moment où cette harmonie est chamboulée, bon, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais...
Non, mais c'est intéressant.
C'est partie intégrante de ce que nous sommes. Soit on le calcule ou soit on ne le calcule pas. Souvent, on voit des personnes, oh, il envoie des bonnes ondes, ou ce sont des personnes qui calculent ça. Dans d'autres cultures, on peut appeler ça des chakras, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est hyper important, en fait. Dans la culture asiatique, ça, on en tient beaucoup compte. C'est pour ça qu'on les voit les matins, ils font leurs exercices, ou c'est pour maintenir cet équilibre intérieur. Et ça permet d'éviter... C'est ça, mine de rien, comme ça. Hein. Ça évite le stress, ça évite tout un tas de trucs, tout un tas de mauvaises ondes qui génèrent des frustrations qui, dans le corps, se manifestent ensuite par des maladies. Et donc, par rapport à justement le couple, c'est super important. Tu vois, que chacun ne s'oublie pas. Ça me fait penser à un conseil que ma meilleure amie m'a déjà donné.
Du coup, on arrive quasiment à la fin. J'ai deux dernières questions pour vous. L'avant-dernière, c'est celle-ci. C'est, qu'est-ce qu'un père présent et qu'est-ce qui prime pour vous, la quantité ou la qualité?
Bonne question.
Qu'est-ce que la quantité sans la qualité? Par rapport à ton interrogation, c'est...
Est-ce que j'ai besoin d'un père qui soit là tout le temps, mais avec qui je ne passe pas de temps de qualité? Tout à l'heure, on parlait de l'amour, de la démonstration de l'amour, du temps privilégié que je vais passer avec lui, des échanges, des discussions autour d'un jeu, autour d'une série, peu importe. Est-ce que ça prime plus? Ou est-ce que j'ai juste besoin d'un père qui soit là H24 et il n'y a pas de problème, hein, je ouvre la porte, il est là sur le canapé, ferme la porte, il est là sur le canapé, je me lève dans la nuit, il est là sur le canapé, ouais, il est là. Hein. Mais par contre, on ne fait que passer l'un à côté de l'autre, mais on ne vit pas, on ne se rencontre pas en fait. Donc c'est quoi être un père présent? Est-ce que c'est par la présence, juste là par la présence, ou est-ce que c'est par la qualité des temps vécus avec nos enfants?
Rien que de par l'illustration que tu viens de donner, il y a eu la réponse.
Parce que moi j'ai un parti pris.
Non, c'est même pas ça. C'est dans l'imagerie. Tu vois, quand tu viens de dire oui, le père le soir, la journée, il est sur son canapé. On a connu des familles où il y avait ça. Ça donne pas spécialement.
Il est présent.
Physiquement il est présent.
Ouais. Mais ça donne pas spécialement une bonne image. Tu vois ce que je veux dire?
Est-ce qu'on est que dans l'image?
Aussi parce que qu'est-ce que l'enfant va se rappeler?
Ok.
Et si il a cette image-là, si c'est en termes de balance, c'est à transmettre dans le camp du moins, c'est pas spécialement, tu vois, ni glorieux, ni bénéfique, ni, tu vois ce que je veux dire.
Je dirais la qualité.
La qualité.
Aussi pareil.
Complètement. Hein. Complètement. Mais de toute façon, si on prend nos exemples personnels, aujourd'hui, si on vous demande quelque chose d'un fait marquant, c'est certainement des personnes qui n'ont pas été H24 avec vous. C'est des gens qui vous ont marqué par une parole, par un geste, par une action ou juste une aide et ils n'étaient pas là H24. Je prends l'exemple de... nous tous, on a des amis proches avec qui on est comme ça. je pense pas que vous les voyez tous les jours. Je pense que c'est la même chose.
Enfin, moi, les miennes, elles dorment sous mon lit, mais non, je rigole.
Ah ouais,
non, je rigole.
Tu les piques, hein. Mais ouais, la qualité. Et après, faut pas oublier, ça dépend de plusieurs paramètres. Aujourd'hui, quand on parle de parents divorcés, forcément, la quantité ne pourra pas être la même qu'un enfant qui est avec ses deux parents.
Mmh. Donc, mais c'est pour ça que je posais la question pour aussi. Mais on y reviendra dans un autre épisode, une autre émission. Mais le fait de ne pas être là au quotidien n'excuse pas le fait d'être présent par la qualité donnée.
Non.
Et du coup, même si on est des familles divorcées, même si on n'est pas ensemble au quotidien, même si j'ai une surcharge de travail, bah, peut-être que sur un court instant, la qualité, l'intensité du moment vécu équilibre en fait les choses. La dernière question que je souhaiterais vous poser, c'est qu'est-ce que vous aimeriez dans l'idéal, que vos enfants retiennent et disent de vous plus tard. S'ils étaient là à votre place, dans cette émission Raconte ta parentalité, qui, je nous le souhaite, sera encore en place quand vos enfants seront parents, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous, qu'ils aient retenu de vous ?
Bonne question. En une phrase comme ça ?
Pas forcément une phrase, il nous reste 5 minutes.
Bah, pour illustrer en une phrase, j'aimerais qu'ils disent tout simplement « j'ai eu un père » et que ça illustre toute ma personne et les valeurs que je lui ai inculquées. En disant que j'ai eu un père, c'est il m'a aimé, il m'a conseillé, il m'a apporté, mais en même temps, il ne m'a rien caché. Ça veut dire de son expérience. Il a fait des erreurs aussi, il les a réparées comme ça. Du coup, aujourd'hui, je suis armé pour. Je peux échouer. Je vais pouvoir me relever parce que mon père, il l'a fait, il me l'a dit et il m'a montré. C'est dans ce sens-là. Après, forcément, des erreurs, il va en faire. Puis, tout simplement, dire, ouais, j'ai eu un père. Ouais, tout simplement.
Moi, je dirais qu'elle est une image en pensant à moi qui dirait, ben voilà, tous les hommes ne sont pas des pourris ou des salauds, quoi. Voilà.
En fait, de réconcilier l'image paternelle, masculine.
Oui, par rapport à
des modèles.
Son géniteur, par exemple, qui ne s'est jamais intéressé à elle, qui ne. Voilà, depuis qu'elle existe, jamais un coup de fil pour savoir, jamais un jour des anniversaires. De fait, elle a une image négative de l'homme. Après, bon, elle saura faire le distinguo parce que elle va avoir des aventures ou elle va avoir des relations ou des trucs. Mais voilà, de par moi, de par mes actions, voilà, je dirais qu'elle
retienne ça, en tout cas.
Ouais.
Eh bien, merci. Franchement, c'était un honneur et un plaisir de partager ces deux émissions avec vous, les garçons, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Et je trouve qu'on vous entend, les pères, de plus en plus dans l'espace public, mais pas assez intensément. Et du coup, l'idée, là, c'était vraiment de mettre à l'honneur deux parcours issus de deux milieux différents, deux générations différentes. Et pourtant, on a retrouvé beaucoup de similitudes dans vos deux récits. Merci à vous.
Merci à toi d'avoir pensé à nous, de nous avoir invités. C'est un honneur aussi.
En tout cas, on remercie aussi Mon Paris FM qui nous donne la chance et le privilège de pouvoir enregistrer nos émissions, de pouvoir justement faire véhiculer notre parole, d'avoir aussi le professionnalisme de Léonard derrière là-bas qui enregistre et qui s'occupe aussi de toute cette partie.
Big up à Léonard.
Big up à Léonard.
On vous rappelle que ce podcast, en fait, il est là aussi pour illustrer que quel que soit notre niveau social, culturel, ethnique ou religieux, nous traversons tous les mêmes émotions. Être parent, c'est apprendre chaque jour, c'est tomber, c'est se relever, c'est aimer encore et encore. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous, de vos enfants, de vos racines, de vos histoires. À très bientôt dans Raconte ta parentalité. Ciao.
Ciao.
Ciao.